Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, tous au fourneau, arrêtez les boissons gazeuses et retrouvez les racines. Avec notre partenaire Afro Cooking, bonjour Cosimo Modeste.
Bonjour Emmanuel.
Rédacteur en chef du magazine papier et internet. Avec vous, nous recevons des chefs avec leurs meilleures recettes et surtout une question en débat. Comment transmettre sa cuisine? Quel héritage nous apporte-t-elle? Eh bien, c'est à vous, bien sûr, de nous répondre, les voisins et les voisines. Y a-t-il des recettes dans vos familles ou au village qui se transmettent de génération en génération et dont parfois on garde jalousement les secrets, hein, je ne sais pas. Appelez-nous en tout cas dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Alors dans le studio, je reçois une super brochette de talents culinaires et de belles histoires de famille aussi. Bien sûr la chef Anto. Bonjour chef Anto.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes une partenaire d'Afro Cooking et vous êtes chef à domicile en France et oui. Gabonaise. La chef Lorna Boboa do Sacramento, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez travaillé à Pointe-Noire, au Zandoli, mais aussi avec le chef pâtissier Cyril Lignac. Vous avez été demi-finaliste de l'émission Star Chef et vous êtes de père congolais, maman togolaise, brésilienne. Et avec tout ça, vous en avez oublié votre cuisine ou pas alors?
Ah non, pas du tout. Elle enrichit ma cuisine justement.
Ultra enrichie.
Oui, ultra enrichie.
Également chef Christian Abégan, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Spécialiste de la cuisine afro-caribéenne, vous préparez un superbe livre sur le patrimoine culinaire africain, une vraie bible, hein, qui sortira en mars prochain. Bien sûr, on en reparlera avec vous. Et puis nous serons aussi en ligne avec Olivia de Souza, chef à Lomé, demi-finaliste de Star Chef en Afrique, et avec Pépin Kunkel, togolais, chef à Paris. Il est en train de préparer son service pour le déjeuner. Normal, hein, vu l'heure, il est au Pletz, à Pantin très exactement, en banlieue parisienne. Allez, et agitez vos papilles, les voisins et les voisines, et appelez-nous, c'est bientôt l'heure de se régaler. Et bien sûr, vous postez sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Je vous rappelle le numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages postés sur Facebook à Nandi, qui est à Chennai, ou anciennement Madras, en Inde. Elle nous dit qu'elle a appris la cuisine avec sa mère et petit à petit, la passion s'est développée. Le premier plat que j'ai fait, nous dit Nandi, c'était une sauce préparée avec des légumes et des lentilles. Il faut le manger avec du riz. Ça a été immangeable. Ma mère l'a quand même mangé. Elle avait l'air ravie. Quelle gentillesse de sa part. Mon frère, lui, continue de me taquiner 30 ans après. Ah ouais, c'est dur, hein, les recettes ratées.
Oui,
les premières recettes ratées. Bandou Malanjamena au Tchad. Moi, c'est ma belle-sœur qui m'a appris à cuisiner. Elle m'a montré l'importance des valeurs culinaires. Et maintenant, je cuisine bien mieux que beaucoup de femmes. C'est un voisin, donc. Hein. Djibril, Akai, au Mali. Moi, ce que j'aime dans la transmission, c'est que la cuisine évolue au fur et à mesure des générations. Chacun personnalise les recettes à sa façon. Alors, la cuisine doit évoluer ou pas, d'ailleurs. Le grand frère, Christian Abégan.
Elle est en pleine évolution. Il faut qu'elle évolue parce que la transmission elle n'est pas que séculaire, donc on peut parler transmission culinaire. Il faut penser que moi je parle toujours de l'Égypte culinaire parce qu'on a toujours ce faste que Cléopâtre avait pendant sur ses tables et que pour répertorier ces merveilleuses recettes il a fallu les transmettre à d'autres cuisiniers pour pouvoir assurer la pérennité culinaire et gastronomique africaine.
Voilà. Mardoché Tayaoundé au Cameroun, et lui il nous dit la cuisine c'est ma passion, ce qui est rare chez les hommes au Cameroun, pas au Cameroun hein, d'ailleurs. Je fais très bien à manger car ma mère était très occupée par son travail, elle rentrait souvent tard et pour se nourrir il fallait se débrouiller en cuisine. Comme j'avais toujours regardé comment ma mère cuisinait, eh bien, je n'étais pas perdue. Ou encore Diaby à Bamako au Mali nous dit avec la mondialisation la cuisine africaine est devenue de la sale bouffe. Il n'y a plus d'héritage culturel en cuisine, on a des produits low cost de mauvaise qualité, je suis très nostalgique des plats faits par ma grand-mère à base de karité et ses bouillons africains. Réaction, les chefs? Sale bouffe ou pas en Afrique aujourd'hui?
Ça dépend des endroits. Heureusement, pas partout, mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a certains endroits où on se perd un peu.
Oui, moi je trouve
que... Très diplomate, chef Anto.
Je trouve que, bon, ça, effectivement, ça dépend des endroits parce que au Congo, maintenant que je réside là-bas, j'ai la nostalgie des plats que j'avais quand on était toute petite avec mes sœurs. On sortait, on pouvait acheter des brochettes ou des petits poissons en papillote, les liboquets, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Mais je trouve que ça s'est un peu dénaturé parce qu'ils ajoutent encore ces sauces comme les cumbagis, je suis désolée de le dire, mais Ils les assaisonnent comme ça et aujourd'hui, il n'y a vraiment plus le goût à l'ancienne. Je trouve que c'est un peu artificiel. Donc, ça dépend des endroits. Après, c'est vrai qu'on peut aller, par exemple, à Cotonou. Récemment, quand je suis partie à Cotonou, j'ai très bien mangé dans les ruelles, dans les maquis. Donc, oui, je pense que ça dépend des endroits.
Chef Abégan, alors,
c'est une alerte, parce qu'en fait, ce qui est un peu outrageant...
C'est bien les alertes, en même temps.
Oui, voilà,
ça
c'est bien.
Parce que
ça remet absolument, absolument, Emmanuel. Mais le principe, c'est quand même un peu surprenant que sur la plupart des tables en Afrique, maintenant, on a un pot de mayonnaise. Qu'est-ce que ça vient faire dessus, dedans? Moi, je ne comprends pas. voilà, donc on a des grandes affiches.
C'est pas la bouteille de boisson gazeuse.
Oui, la boisson gazeuse aussi. Donc, c'est forcément, je pense, son coup de gueule, il faut vraiment...
Bon, allez, on se secoue les voisins et les voisines et on se met au fourneau. On a franchement des stars, je peux vous le dire, dans le studio. Et bien sûr, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Un voisin, une voisine nous appelle de Moroni aux Comores. C'est vrai qu'on ne vous entend pas souvent, les voisins des Comores. Abdallah est en ligne avec nous au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Abdallah.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins.
Vous avez la parole, vous êtes en direct de Moroni. Alors, cuisinier à vos heures perdues ou pas, Abdallah?
Pas du tout. D'ailleurs, j'en garde un très mauvais ou sinon bon souvenir après quelques années. Une fois arrivé à la fac, j'ai dû m'adapter à cette nouvelle vie parce qu'avant, ma mère cuisinait, j'arrivais à la maison, je mangeais tout de suite. Mais une fois arrivé à la fac, j'étais tout seul. Je devais préparer à manger. Un jour, j'ai voulu préparer des macaronis, une catastrophe, immangeable le truc. Et là, je me suis résolu à acheter des pains et des sardines, ou sinon des brochettes dans la rue, ce qui n'est pas évident quand on a un budget d'étudiant, ou qui n'est pas évident parce que justement, c'est un peu ennuyant de manger toutefois.
Tous les jours des macaronis, ouais, on a bien compris, d'accord.
Mais les macaronis, je vous jure, fallait pas les manger, sinon je serais plus là aujourd'hui, je pense.
Ouais, bon, mais les macaronis, c'est pas au cœur de la tradition culinaire aux Comores, non?
Oui, mais c'était le plus facile pour
c'est
préparer.
C'est ça, d'accord.
Si oui, j'ai pas réussi à préparer des macaronis, je n'imagine même pas ce que ça aurait été avec un autre plat.
C'est clair. Non, mais c'est bien parce que vous êtes modeste et lucide, Abdallah. Mais alors, finalement, aujourd'hui, vous regrettez, vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose dans votre héritage culturel, la partie solide pour l'estomac?
Regretter, non. Ben, disons que je ne regrette cela que quand ma femme n'est pas à côté de moi. Parce que là, je retourne à ma vie d'étudiant, je mange dans la rue, je mange des pains et des sardines.
Ah, c'est ça.
Et quand elle est là, je ne regrette rien.
Ah oui, d'accord. Ah bah vous êtes pragmatique, hein, d'accord. Merci Abdallah de nous avoir appelé. Binti, est-ce que vous avez vécu la même chose également à Moroni, une voisine qui nous appelle?
Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Moi, au fait, ma mère m'a transmis la cuisine, mais comme j'ai dit, à certains plats traditionnels, c'est tellement difficile à préparer. Pas la recette, mais ça prend tellement du temps. Et moi, je trouvais que c'est ennuyant de rester pendant 2 ou 3 heures après à préparer un seul plat. Donc, comme j'allais à l'école, ça me permettait d'échapper à ça, d'aller à l'école, de laisser ma mère préparer. Mais après, quand je suis partie à la fac au Sénégal, donc j'étais toute seule, il fallait que je me débrouille. C'est là que j'essayais de le faire toute seule. Mais quand je suis revenue au pays, donc j'ai l'habitude, je me suis habituée à préparer, mais je préfère parfois laisser cette tâche aux autres. C'est sûr qu'ici, quand on n'est pas encore marié, donc on est toujours dépendant de la famille.
Ouais.
Donc ça me permet également de laisser ma mère préparer, surtout que je suis un peu prise parfois avec le boulot, je retourne tard à la maison.
Ouais.
Donc,
c'est ça. Donc, voilà, donc vous n'êtes pas encore.
J'ai appris à préparer, mais.
Ouais, vous n'êtes pas encore mariée, donc Binti, hein?
Non, donc ça me permet alors d'échapper à ces tâches de laisser
ouais.
maman.
Donc, si j'ai bien compris, vous n'allez pas attraper un homme avec une super recette. Ça sera autrement. C'est ça. Bon, et ben c'est pas gagné pour la transmission de l'héritage, hein, les amis chefs là autour du studio. Vous avez entendu hein, les témoignages des jeunes là qui nous appellent de Moroni. Mm-hmm. C'est long, c'est ennuyant. Il vaut mieux le laisser faire par les autres.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une transmission qui a été faite qui était très orale. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, je restais à côté de ma mère. Il n'y avait rien d'écrit. C'était vraiment, pour donner un exemple, par exemple, l'ablot. qu'on fait au Togo. Quand on était au pays, il y avait une farine spéciale avec qu'elle utilisait pour pouvoir faire ces tableaux. Et en fait, ici, elle a adapté ça avec la semoule de riz, parce qu'elle ne trouvait pas justement la farine du pays. Donc, il a fallu qu'elle apprenne, enfin, qu'elle fasse aussi un dosage et certaines choses. Donc aujourd'hui, au niveau de la transmission, oui, nous, on l'a reçu oralement, mais je pense que c'est aussi à nous de pouvoir l'améliorer, de l'adapter pour pouvoir justement aller de l'avant. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui des chefs reconnus pour pouvoir justement nous aider en ce sens.
Et alors justement, les uns et les autres, bah, chef Anto, qui vous a initié? Qui vous a mis la pression pour bien cuisiner?
Ben déjà ma maman, parce que ma maman travaillait beaucoup, et mon père en africain, en bon africain,
au Gabon
exactement, il ne voulait pas qu'on, enfin on pouvait prendre un cuisinier, un domestique qui cuisinerait à la maison, mais lui ne voulait manger que la nourriture qui avait été préparée par ma mère. Et quand elle voyageait, dès l'âge de 9 ans, elle m'a dit, bah, quand je suis pas là, c'est toi qui me remplaces. Donc, c'est moi qui ai dû me mettre au fourneau. Je me rappelle, j'avais un petit tabouret, je montais dessus parce que la cuisinière était un peu en hauteur. Et c'est comme ça que j'ai appris à cuisiner. Et première chose que j'ai appris à cuisiner, c'était le riz. Je l'ai raté, il y avait trop d'eau. La deuxième fois, il n'y avait pas assez d'eau. Le foufou de banane, pareil. Je l'ai raté souvent parce que pour faire le foufou, il fallait que la banane soit chaude. Mais comme le pilon était trop lourd pour le piler, donc le temps de piler et tout, donc la banane avait refroidi, donc la texture n'était pas comme celle que ma mère avait l'habitude de faire. Donc
oui, parce que tout est dans la texture pour le foufou de banane.
Exactement,
en fait.
Exactement, hein. il faut que ça soit élastique. Bientôt, donc,
sur son petit tabouret avec un pilon qui fait trois fois sa taille.
Ah oui, donc c'est sûr, j'en ai raté des recettes, aussi bien que soit le foufou de banane, même des ragoûts, la viande n'était pas assez cuite. Enfin, je me rappelle mon père qui essaie de couper. Et je voyais que voilà, il disait, mais c'est de la semelle.
Donc, la transmission, ça commence par des galères ou pas, Lorna Boboa do Sacramento?
Oui, je pense.
Vous avez grandi dans une famille de trois filles.
Oui, on était trois filles. On est toujours trois filles. Et en fait, moi, j'ai eu une transmission double, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que ce sont mes parents qui m'ont appris la cuisine, donc ma mère et mon père. Ah. Et il y a aussi, il y a ma grand-mère qui m'a initiée quand j'étais toute petite. Mais c'est vrai que j'ai pas un grand souvenir, mais je sais qu'elle c'est une excellente cuisinière.
C'était au Congo-Brazza, ça ?
En fait, j'ai un peu voyagé un peu partout. Donc la première fois avec ma grand-mère, c'était en France. Et ensuite, la deuxième fois, enfin avec mes parents, c'était au Congo, au Brazzaville.
Et donc, deux initiations selon que c'était le père ou la mère?
Alors oui, voilà. Donc,
deux transmissions.
Donc, ma mère, en fait, elle m'a appris les fondamentaux. Elle dirige plus. Elle dit, bon, tu prends une casserole, tu fais ça, tu fais ceci.
Bah, il faut survivre, quoi, en gros. Hein.
Ouais, non. elle vient quand même pour vérifier. Hein, et voilà. Mais sinon, mon père, il vient à côté de vous et puis il vous dit, bon, tu dois assaisonner, il met les mains dans le plat. Il prend tes mains, il met dans le plat aussi, et on assaisonne ensemble et tout. Donc, je me rappelle vraiment, en fait, j'ai des souvenirs avec mes sœurs qu'on cuisinait avec notre père le dimanche. D'ailleurs, il voulait faire ce métier, cuisinier, donc peut-être pour ça
et il l'a pas fait?
Non, il a changé de voie. Bon, je pense qu'à l'époque, on l'a découragé.
La cuisine n'était pas aussi fringant qu'aujourd'hui.
Il y en a d'autres comme ça qu'on a tenté
donc,
de décourager.
J'ai eu deux éducations culinaires, en tout cas.
Chef Christian Abégan, justement, vous avez grandi au Cameroun, un peu planqué sous les fourneaux des Tantilles, hein?
Oui, mais moi, je reviens déjà sur le principe de la transmission, parce qu'un ménage, un foyer qui a quatre filles, par exemple. Donc, on a bien vu, parmi les quatre filles, il y a deux ou trois qui vont aller suivre ce que le repas quotidien ou alors qu'on fait en fin de semaine. Il y a forcément une qui va ne jamais aller, et voilà. Donc, il y a quand même une transmission qui est faite. Hein. Donc, je voudrais qu'on revienne déjà dessus. Il y a une transmission séculaire qui est faite, sinon on ne saurait pas comment est-ce qu'on travaille la capacité de fabriquer.
C'est ça, c'est Binti qui nous a appelé de Burundi, elle a transmis mais j'aime pas ça, ça m'intéresse pas trop.
Voilà, il y a aussi ça, donc forcément il faut déjà voir comment est-ce que ça a été fait, de quelle manière c'est fait et quelles sont les personnes, parce qu'il faut aimer déjà ça pour pouvoir essayer de recevoir, parce que comme elle a dit...
On vous a pas forcé, hein, c'est plutôt
moi,
vous qui avez cherché à...
J'ai cherché,
à voler les secrets.
J'avais cet appel et puis je sentais que c'était quelque chose qui était était qui me parlait la cuisine, donc et puis
et le goût, pas le vraiment palais... programmé pour ça quand même.
Non.
Quand le jour où l'instituteur a révélé à votre papa que vous étiez juste un champion mais pas tout à fait pour les matières qu'il espérait.
Mais c'est comme ça qu'il a une passion, je pense. Je pense que c'est comme ça qu'on a une passion. Je crois qu'on sent au fond de soi qu'on est capable de le faire, parce que c'est un métier qui est extrêmement difficile,
oui,
à cuisiner.
Mais tête de votre père, quand l'instituteur dit qu'il a cuisiné pour toute la fête de l'école, c'était génial.
Il n'avait plus de tête, je crois. Hein.
Mon fils sera avocat.
Voilà. Non, mais on a une anecdote justement à ce propos où justement Anto est parti. Le monsieur lui a dit quoi déjà? Quand elle a dit qu'elle voulait faire des études de cuisine.
Ah oui, il m'a dit mais ma fille soit ambitieuse.
Alors, transmettre, c'est d'abord léguer des plats de fête ou pas? Parce que dans le livre qui va sortir bientôt, Christian Abégan, que vous publiez, sur le patrimoine culinaire africain, vous commencez par les recettes des plats de fête. Est-ce que c'est ça la base, finalement, du patrimoine, d'un patrimoine en général?
Il faut partir sur la tradition séculaire du repas. Du repas d'une famille traditionnelle, si on repart même...
Oui, mais enfin, c'est pas fait tous les jours, hein, quand même.
Non. C'est comment est-ce qu'on mange? Le repas traditionnel, c'est que quand on apporte le plat, on le mange tous ensemble. Donc, cette réunion donne déjà cette capacité de pouvoir avoir une essence de partage qui fait donc fête un peu. On connaît bien le repas des 12, des apôtres. Le repas a quand même symbolique quand même de partage et de fête, en fait. Donc, je pense que... Mais c'est juste une image sur la capacité de se réunir pour pouvoir de partager quelque chose.
Bon, alors on va bientôt rendre l'antenne pour le flash, mais on aura d'autres chefs au téléphone avec nous. Qui nous donne le gâteau de mai de pistache?
Ah, c'est moi.
Ouais, chef Anto.
Gâteau de mai de pistache ou encore qu'on appelle aussi gâteau de graines de courge. J'ai découvert après qu'au Cameroun on appelle ça le ngondo.
Et un plat du nord du Gabon.
Un plat du nord du Gabon, et en fait, ce que ma grand-mère, elle est née, elle a grandi dans le nord du Gabon, donc au Wolentem, et ma mère aussi, du coup, a grandi par là-bas. Et donc la façon dont elle m'a appris à faire cette recette, c'est qu'elle faisait un bouillon avec de l'ail, de l'oignon, des aromates, et avec ce bouillon qu'elle mettait après dans des graines de courge qui avaient été broyées bien finement, et dans cette pâte elle rajoute soit du poisson fumé, des crevettes, du piment qu'elle attache après dans des feuilles de bananier, et qu'elle fait cuire pendant à peu près 45 minutes dans de l'eau très bouillante. Alors pour cette recette, moi je sais la faire à l'œil. J'ai jamais pris le temps, en fait, de faire les dosages que j'ai appris à le faire à l'œil.
Ouais. C'est comme ça. Ouais.
Et après, ça donne un gâteau qui est très, enfin, qui s'adurcit, en fait, à la cuisson. Et on le mange en plat ou en entrée.
Oui, voilà. C'est aussi une pâte qu'on faisait beaucoup dans les mariages, non?
Exactement.
Encore aujourd'hui,
en fait, aujourd'hui, lorsqu'une femme, on va la déposer dans sa belle famille le dimanche, parce que le mariage se passe souvent en 3 jours. Mmh. Le dernier jour, quand on va la déposer dans sa belle famille, il faut qu'on partage en fait ce gâteau de courge.
Et qu'il faut qu'il soit cuit au centre. C'est la même tradition, l'Afrique, elle est incroyable,
ouais.
Qui est au Cameroun. La même tradition dans une des ethnies, chez nous au Cameroun, c'est la même recette. Sauf qu'on prépare un gâteau qui a 100, 120 kilos et pendant 8 heures ou 10 heures. Et il faudrait que le centre du gâteau soit cuit. À ce moment, on saura que le mariage va être un mariage heureux.
Ah, oh, c'est bien ça.
Vous restez avec nous, les voisins, les voisines et les chefs. On donnera la parole juste après le flash à chef Olivia de Souza, qui est à Lomé, chef et coach culinaire. Elle a créé l'atelier d'essence. Elle donne des cours de cuisine, traiteur à domicile, et puis coach à la télévision togolaise, puisque ça y est, la cuisine africaine se montre dans tous ses états, y compris sur le petit écran. Comment la cuisine se transmet-elle par ailleurs? Est-ce que ça se transmet d'ailleurs aujourd'hui aussi à la télévision et à la radio? Vos témoignages et vos meilleures recettes, appelez-nous les voisins au 33 1 84 22 71 71. 7 milliards de voisins, on revient dans un tout petit peu plus de 3 minutes. Restez avec nous sur RFI.
Salut, c'est Tiken Diafa Kouli. Allô. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, on dit quoi sur la cuisine chez vous? D'Abidjan à Lomé, en passant par Dakar, on parle de l'héritage en cuisine. Comment les meilleurs plats se transmettent-ils en famille ou au village? Bien sûr, vous nous appelez, les voisins et les voisines. N'attendez pas la fin de l'émission. 33 1 84 22 71 71. Vous pouvez aussi nous parler de vos tâtonnements, de vos déboires en cuisine, si vous avez envie de conserver ce patrimoine. Mais c'est vrai qu'il faut un peu de sueur aussi parfois en cuisine. On discute avec des chefs confirmés. Alors, rédacteur en chef et pas chef aussi modeste d'Afro Cooking. Et puis sinon, des vrais chefs en cuisine. Chef Anto, Lorna Bobois d'O Sacramento, Christian Abégan. Je vous lis tiens le message d'une internaute, Jim Tak est à Ngaoundéré dans le nord du Cameroun. La cuisine est belle et sa transmission reflète la culture d'une société. Il est indispensable que tes parents t'apprennent à cuisiner parce que le jour où tu te retrouves seul, il faut savoir se débrouiller, se préparer à manger. Il faut comprendre que la cuisine se transmet à la fille, mais au fils aussi. La plupart des familles ne le font pas. Pourquoi n'apprend-on pas aux garçons à faire la cuisine? Ça a été mon cas et malheureusement, je mange n'importe quoi depuis que j'ai commencé mes études supérieures. Voilà, un voisin désappointé.
Voilà qui est bien dit, hein, je pense. Moi, je voulais revenir un peu sur la petite discussion, la recette de chef Anto, pour lui dire qu'elle disait qu'il n'y avait pas...
Oui, parce que pendant le flash, on a continué à donner des recettes.
Oui,
hein. Désolé les voisins, mais
oui,
on va mettre ça sur Facebook.
Pourquoi est-ce qu'elle pensait que sa recette n'a pas de mesure? Moi, je voulais qu'elle m'explique.
Bah, parce que,
oui, vous dites, je fais à l'œil.
Ma mère, la façon dont elle cuisinait, et ma grand-mère, ça faisait à l'œil.
Est-ce que l'œil n'a pas... Quand l'œil regarde un verre, l'œil mesure la capacité d'eau. Parce que quand vous versez du jus ou de l'eau dans un verre, vous n'allez pas déborder. Donc l'œil est une mesure.
Oui, mais tous les verres n'ont
pas
la même taille.
Oui, mais mon œil, ce n'est pas le même œil que l'autre. Parce que,
comment
je veux dire, en fait, la difficulté que j'ai retrouvée quand je devais refaire des recettes à ma mère, c'est le fait de ne pas avoir des grammages dans le sens le poids, un gramme, qu'on peut mesurer à la balance, fait que il m'arrivait de retrouver par hasard le goût qu'elle avait, enfin que je, dans mes souvenirs.
Il faut préciser, chef Anto, que vous êtes passé ensuite par une école de cuisine française.
Oui.
Alors réellement là, il y a eu un petit choc, hein. Mais ceci dit, dans les vieilles recettes aussi de la tradition française, il y a eu beaucoup de transmission qui s'est fait à l'œil également. Hein.
Oui, je suis d'accord avec ça, mais je pense que si on veut transmettre et qu'on veut que la personne à qui on transmet puisse refaire 10 fois la même recette et toujours tomber sur le même résultat, un grammage fixe reconnu de
tous.
Non,
je suis désolé. Mais avant d'avoir la capacité d'avoir des mesures, des verres et tout, etc. Mm-hmm. Tout le monde.
Moi je suis.
Les aveugles cuisinent. Il y a un restaurant à Paris dans le noir là.
Oui.
Où les gens cuisinent, ils sont des aveugles, hein, donc forcément comment ils font?
Bon là ils voient pas. Je comprends très bien le chef. Je comprends très bien le chef Anto. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est que. Moi, on m'a appris comme elle, c'est-à-dire que pas de grammage, pas de balance, voilà. Quand on dit grammage, c'est balance, avec le poids et tout. Mais ça m'a permis, moi, plus tard, parce que j'ai fait l'école de cuisine, la même école qu'elle, l'école Ferrandi. Pour moi, ça m'a permis plus tard que quand on me demandait de sentir un produit, parce que dans le jargon, on dit il faut parler au produit, il faut sentir, il faut goûter ta sauce et tout. Ça m'a permis de sentir seulement ça, rien qu'en prenant mes mains, sans la balance, sans prendre, en fait, peser avec la balance. Mmh. Et c'est cette transmission qu'on m'a faite depuis l'Afrique. Donc, ça veut dire que toute, en fait...
Relation plus charnelle, en fait. Hein,
voilà,
avec
plus charnelle,
produits,
exactement. C'est ça, c'est très important. Quand on nous transmet la cuisine africaine, on nous transmet avec les sens. On nous demande de sentir le produit.
Bon, on a une chef au téléphone. Allô, mais... C'est bizarre, je vois beaucoup de Togolais aujourd'hui. Je
sais
pas comment
c'est
ça se
fait.
C'est curieux.
Ça se fait qu'il y a une constante de Togolais. Hein.
La chef Olivia de Souza est à Lomé au Togo. Bonjour, chef Olivia de Souza.
Bonjour à tous.
Vous êtes en direct avec nous, vous êtes chef et coach culinaire, vous travaillez maintenant pour la télévision togolaise, vous donnez des cours de cuisine, vous êtes chef à domicile et vous travaillez aussi bien d'ailleurs pour des restaurants à Lomé qu'à Cotonou, au Ghana, en Côte d'Ivoire. Vous avez grandi d'ailleurs vous-même en Côte d'Ivoire, alors du coup, qu'est-ce qu'on vous a transmis comme cuisine togolaise, ivoirienne?
Alors, c'est vrai qu'au départ, je vais dire qu'on m'a transmis la cuisine togolaise, puisque mes parents étant tous les deux togolais, donc à la maison, on cuisinait togolais et chez les voisins, on mangeait ivoirien. Parce que jeune, vous savez, on préfère toujours la cuisine des voisins, donc on est souvent en train de s'échanger des plats, de manger dehors, au bord de la route. Et donc, la cuisine ivoirienne est effectivement une de mes cuisines de prédilection. Mais ce qu'on m'a transmis, c'est la cuisine togolaise. Mmh.
Et alors, juste sur ce débat qu'on avait cuisiné à l'œil ou au contraire avec une balance, vous qui êtes maintenant coach pour des émissions de télévision, comment vous vous situez par rapport à ça?
Mais justement, comme le chef Anto, j'ai eu le même problème au départ, c'est-à-dire que je faisais mes plats à l'œil parce que j'ai regardé ma mère faire sans mesure. Donc je faisais mes plats à l'œil au départ et après, effectivement, quand j'ai intégré des formations en cuisine, quand j'ai intégré des brigades, il a fallu, pour pouvoir transmettre ma recette, pour pouvoir que mon second ou mon collègue puisse refaire ma recette, moi absente, il a fallu faire une fiche technique. Donc on a dû travailler très longtemps, pour pouvoir sortir des fiches techniques. Donc aujourd'hui, j'ai quelques fiches techniques des plats principaux togolais et ivoiriens que je veux transmettre. Et voilà. Mais c'est vrai que longtemps, j'ai eu à travailler à l'œil.
On va donner la recette avant que vous nous quittiez, Olivia de Souza, du veilli.
Oui, alors en fait, c'est la recette de Aïe Molou. Donc le veilli, c'est le haï cuisiné. Donc le haï, comme je vous l'ai dit, c'est des haricots aux yeux noirs qu'on retrouve aussi au Portugal, on retrouve dans quelques boutiques exotiques en Europe. Donc nous, notre plat principal au Togo, le plat du matin, le petit déjeuner, c'est le haï molou. Moi, j'adore. Haï molou,
c'est ça. Donc c'est un riz aux haricots, c'est ça, avec des œufs, du poisson.
C'est un riz aux haricots.
La sauce tomate, le piment.
On cuisine au haricot. Voilà, on le cuisine de façon à ce que ça reste onctueux, que l'haricot et le riz puissent se fondre ensemble et donner une certaine texture. Donc on va partir, je dirais pas sur le risotto, mais on va partir sur une texture qui soit quand même moelleuse, qui ne soit pas sèche. Voilà. Donc on fait cuire le riz et à partir d'un certain moment, je pourrais même pas vous dire le nombre de minutes après, mais à partir d'un certain moment, on intègre le veilli, le haï, voilà, parce qu'il y a une différence entre veilli et haï, on intègre le haï et on le mélange au riz pour qu'il finisse de cuire ensemble. Voilà, donc tout ça terminé, on a fait entre-temps une petite sauce tomate,
qu'on appelle
Christian Abégan pose une question.
Moi, c'est comme ça que j'ai appris.
Attendez, Christian Abégan pose une question.
Oui, parce que la cuisson du riz qui peut faire 15 minutes, je pense qu'il faut précuire le haricot aussi.
Le haricot,
le haricot également.
C'est très long à cuire. D'accord. Non, parce que sinon, là, on va faire fuir tout le monde.
Non, vous avez vu, les gens, ils appellent, ils disent c'est trop long. Moi, j'ai appris à faire cuire l'haricot et ensuite à incorporer le riz avec le l'eau et qui remonte.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On cuit les haricots aussi, effectivement.
Ouais. On rajoute de la sauce tomate, du piment, pâte de piment noir, poisson séché, etc.
Ça, c'est le service dans l'assiette. Après, quand on le sert, on met donc le haï molou qui est déjà cuit. On met un peu de sauce tomate, on met le petit piment noir, on met donc un œuf, on met du poisson frit, de la viande frite. Après, ça va être en fonction du budget. En fonction de la
peau de bœuf aussi.
C'est un plat principal que tout le monde mange au Togo aujourd'hui.
Bon, qu'aussi modeste est au bord du malaise, parce que là, il y a des réminiscences.
À Sigam, mais quand on allait à Sigam, c'est ce qu'on mangeait le matin. Ça, c'est ce qui nous donne la force le matin. Ah oui.
Est-ce qu'il y a des plats qu'on ne sait plus cuisiner, notamment en ville, Olivia de Souza? Allô, Moï.
Oui, on ne sait plus cuisiner, par exemple, la fechouada, qui est un plat qu'on a en commun avec le Brésil. C'est un plat à base de haricots noirs qu'on cuisine avec différentes parties du porc et différents types de porc cuisinés. On le cuisine avec du porc salé, du porc frais,
Et pourquoi on ne sait plus le cuisiner, ça?
Ben, parce qu'il n'y a pas eu effectivement de transmission et que les personnes qui savent le cuisiner, sont aujourd'hui vieilles et n'ont plus forcément envie de le cuisiner, ou elles vous expliquent, on le fait une fois ou deux. Moi, j'ai vraiment eu de la chance. J'avais une tante qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années. Mais quand je suis arrivée à Lomé, comme c'était mon projet, je lui ai tout de suite demandé dans les premières années de m'énumérer tous les plats.
C'est ça, il faut aller voir les anciens et faire des fiches techniques.
J'ai commencé à cuisiner avec elle jusqu'à ce qu'elle nous quitte.
Ouais, vous connaissez ce plat, Lorna, vous qui avez une maman brésilienne, moitié.
Oui, la feijoada.
Oui, tout à fait. Je connais ce plat. On le faisait à la maison souvent le dimanche quand on était au Congo. Donc nous, on voyageait un petit peu quand on est chez nous.
Père congolais et maman togolaise et brésilienne.
Oui, tout à fait.
Merci Olivia de Souza à Lomé d'avoir été en ligne avec nous. Merci infiniment Christian à Bégan.
Il ne faut pas oublier que sur ce plat-là, il y a la crème de crème qui est le piment noir.
Ah oui,
c'est le piment noir.
C'est le pâte de piment noir qu'on ne met pas dans la sauce, qu'on le met juste à côté.
Oui, elle a dit.
Permet que le piment est confit et il est le plus digeste et moins agressif pour les estomacs délicats. Voilà.
Christian Abégan, sans dévoiler le livre que vous sortez au mois de mars sur le patrimoine culinaire africain, où il y a à la fois des plats de fête, des plats, d'ailleurs des cuisines transversales aussi, on le sent bien à quel point ce sont des cuisines, des patrimoines culinaires très transversaux sur le continent. Est-ce qu'il y a une recette de prédilection que vous avez envie de nous donner? Moi j'ai eu le privilège de feuilleter déjà votre livre. On découvre par exemple le Sessois, du Botswana, des pays, c'est vrai qu'on connaît mal, finalement, avec des patrimoines culinaires moins connus en Afrique.
Oui, mais je pense qu'il faut parler de la continentalité culinaire, parce que les recettes sont, les produits sont quasi similaires, et les recettes sont un peu équivalentes. Donc, il y a quelques différences, mais si on peut spécifier par rapport à un plat pratique d'un pays qui a, par exemple, le Tchibou-Djana, vraiment, cette paella sauvage un peu, parce qu'en fait, tous les pays qui sont en bord de mer avaient toujours un plat avec les retours de pêche. Donc, on agrémentait avec ce qu'on trouvait. Donc, il y a beaucoup d'environnements où on fait ces mêmes plats, mais avec des céréales. Donc,
La cuisine de la forêt est bien différente.
De la forêt différente. C'est la continentalité qu'il faut vraiment célébrer, parce que cette capacité de rester toujours sur un pays à cloisonner cette cuisine. Et voilà, on est avec, je parlais avec Anto tout à l'heure, elle parlait d'un plat, le gâteau de graines de courge, et où la recette est similaire.
Faut faire sauter les frontières qui ont été établies aux indépendances en fait, et retrouver les différences climatiques finalement.
Oui, et ben c'est d'abord quelque chose qu'il faut essayer de voir. Moi, quand j'étais au Togo, la première fois que j'étais au Togo, j'allais au Bénin et en voiture, et puis je me disais, je vais d'un pays à un autre, j'avais donc le principe de la différence, et on arrive, et puis on dit, on est déjà au Bénin, je dis, mais c'est pas possible, c'est pareil, c'est la même chose.
Les voisins ne se connaissent pas, mais il y a beaucoup de similitudes chez les voisins.
Dans la cuisine, la continentalité, elle est très importante de pouvoir essayer de...
Chef, on devrait avoir chef Pépin Kunkel, mais on a un petit problème de ligne. Et puis en plus, je pense qu'il y a un peu le feu au fourneau chez lui, puisqu'il est chef au Plates, chef depuis plus de 20 ans à Pantin. C'est de la cuisine française, mais c'est aussi tous les vendredis soirs des spécialités africaines, béninoises, sénégalaises. Il y a du mafé. Qui doit nous donner la recette du Djil Koumé? Est-ce que je prononce bien déjà?
Djil Koumé.
Merci. Merci de me reprendre.
Djil Koumé,
ouais.
Qui la donne?
Le Togolais.
La recette du Djil Koumé, c'est en fait une recette où on fait une sauce tomate.
Attendez, il faut peut-être quand même dire à ceux qui nous écoutent, je ne sais pas, à Saint-Pétersbourg ou à Berlin, c'est une espèce de polenta en fait, à la base.
C'est exactement ça. C'est pratiquement pareil. Et
donc
en fait, c'est la
semoule de maïs.
Semoule de maïs. Et une fois qu'on a fait cette sauce tomate, et c'est là qu'on appelle les hommes. Ma mère, en tout cas, à ce moment-là, appelait mon père.
parce que c'est dur.
Parce que là, c'est la.
Le bras qui travaille.
Voilà, avec ça, c'est le bras qui travaille. Et elle mettait la semoule.
Ils font des grands gestes, je vous le dis tout de suite en studio.
Et ensuite, elle mettait la semoule en fait au fur et à mesure dans cette sauce tomate. Et ensuite, elle cuisinait et ça devenait dur jusqu'à ça.
En fait, il faut bien préciser qu'on réalise une purée. Une purée qui a une connotation comme de la polenta à base d'un jus à base de tomate. Et souvent, les gens ne ferment pas la tomate. Moi, j'ai dégusté un Djil Koumé en plus en gros à Lomé, donc avec d'autres produits. C'était à base de lait de coco. La sauce,
Ça se mange avec quoi? Avec de la viande?
En fait, la viande est préparée à part. Donc, on pré-cuit, donc, avant on fait cuire la viande, on recueille donc le jus et on monte donc une purée grâce au jus de la viande.
Comme et ça fume et ça sent bon. Appelez-nous, les voisins et les voisines, quel héritage vous avez reçu en cuisine. 33 1 84 22 71 71, où que vous soyez. À tout de suite.
News, send my letters, shout all you, but our leaders ain't loyal. They sell us to the highest bidder, giving up the soil. We ready to fight, it's better to right. Steve Beagle, lethal pigs, run an animal farm. We not created equal, they bust shots. Another innocent victim, from Joe Burke to Ferguson, it's all the same system. These rappers stay yapping, but they ain't saying shit. Whole style is chop scaly, Charlie, Charlie, no hits. That revolutionary straight from Ghana to South Africa. Guaranteed to be the realest, illest rebel massacre. And Googie Watt the younger when I'm spazzing on the vocals. Internationally known on all your fans are local. Me and the neck already told you, visa, visa. United States of Africa, you better check the visa. You wanna go heaven? You know. Like AKA, not enough AK, 47 Great Lakes, poverty at safe rates, water still A grade. I pointed age, they nod and call it play, play. Go back in the capes like the continents, USA, let it gestate. I go to painstaking Empire State, links to end that mistake. Take how they violate my folks, had to hide away from home fighting. Had to sign away they own life in. Find a way to overthrow tyrants with a code that's so silent to the violence that I long rode, so I'm ghostwriting. It was foretold like the Mayans, blitz would go forth and unite. From here to Hong Kong, you will find us. We're immigrants born from survivors. The dinner's four course, of course you're invited. So bring your own fork to the itis. They bit off lots more than could digest. The seers go off, so they might just throw up both hands for the livers. We hit a soft spot, so you like us. We live in this coast.
On est tous autour de la marmite. Et ça parle cuisine. Aujourd'hui, avec des chefs dans le studio des 7 milliards de voisins, juste après Blitz, The Ambassador Heaven. Je voudrais tiens vous lire un message d'un étudiant à Paris. Moi, j'ai un principe en tant qu'étudiant, je jette les ingrédients dans la casserole pleine d'eau et en général, ça marche.
Oui, ouais. S'il n'a pas un feu très fort, et puis ça dépend des ingrédients, voilà.
Si ça mijote, ça peut marcher.
Ça peut aller,
non, mais
parce
pas besoin de transmission, là. Hein,
il a déjà quelques éléments pour être un excellent cuisinier. Il ne veut pas faire d'autres choses aussi en même temps. Quelques ateliers, je crois qu'il peut être très bien, parce qu'il a compris le principe de la cuisson. Parce que pour rédiger son mémoire, je crois qu'il doit de l'eau et tout le temps. Il doit manger sainement, parce que ses aliments ont de l'eau.
Vous savez flatter les auditeurs. Voilà. Hein. Vous voulez faire de la politique sur un végan. Bon, mais encore, alors, sur la transmission, on a eu des messages aussi de garçons qui nous ont dit « Oui, on n'a pas appris, c'est compliqué. Mm-hmm. » Aujourd'hui, c'est encore un vrai problème pour vous, Lorna, Dos Sacramento. Pardon, je vais y arriver.
Non, enfin, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai des amis qui m'ont dit « Bon, homme ?» On dit, moi, j'ai pas appris la cuisine parce que justement, ma grand-mère ou ma mère, c'était interdit chez moi. Par exemple, je peux vous citer au Cameroun, dans le peuple Bassa ou Douala. Et ils ont pas vraiment appris, enfin, on les a pas autorisés à aller en cuisine parce que c'était considéré l'endroit pour les femmes. Alors que du côté de ma maman, au Togo, c'était aussi conseillé dans l'endroit des femmes, mais on pouvait, un homme était quand même, pouvait rentrer en cuisine, aider, par exemple, Kossi l'a bien dit, on tournait
le four, donc
c'est vraiment aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, c'est avec les outils qu'on a, les multimédias, faire cette transmission par via internet,
des tutoriels. C'est ce que vous êtes tous en train de faire.
Il y a l'application d'Afro Cooking qui arrive pour ça aussi.
Voilà, Afro Cooking, oui, c'est vrai.
Le mois prochain.
De cuisine africaine maintenant sur internet. Alors, on a une question d'un internaute qui nous dit: j'aimerais connaître l'avis des invités sur l'absence de brigade ou de chef afro lors de concours culinaires internationaux comme le Bocuse d'Or.
Ça c'est très important.
En plus, certains d'entre vous ont étudié dans les écoles françaises.
C'est en préparation, mais il faudrait qu'ils sachent que ce n'est même pas... pour qu'on aille au Bocuse d'Or, une brigade comme celle-là, on est obligé de faire une brigade avec tous les standards internationaux. Parce que, par exemple, on est en France, mais si, en France, dans la plupart des grands restaurants étoilés, il y a des Africains qui cuisinent. Mm-hmm. Donc, on a de la matière, on a de très bons cuisiniers, on a d'excellents cuisiniers. Jusqu'à l'Élysée. Hein, donc, vraiment, on a des Africains.
Oui, tout à fait.
Mais ça va se faire.
Petit à petit.
Mais moi, je suis vraiment. C'est une très bonne question. Enfin, parce que je trouve qu'on devrait faire une grande équipe. Justement se présenter au Bocuse d'Or. Parce que la dernière fois j'ai vu Madagascar, j'étais très contente. Pourquoi pas un autre pays ou peut-être toute l'Afrique.
Plusieurs pays,
voilà.
Madagascar, c'est pas au Japon.
Donc du coup, j'étais vraiment contente par rapport à ça, et il faudrait qu'on le fasse et qu'on sorte un peu de
tout ça. Donc
il
y a bien des équipes africaines au Bocuse d'Or. Vous nous dites qu'il y avait Madagascar, non? J'ai pas suivi, excusez-moi, le Bocuse d'Or.
Madagascar, il y avait
le Maroc aussi.
Donc le continent est bien représenté.
Oui, mais bon, c'est timide.
On n'a pas encore.
Bon, l'Afrique des bordures, c'est ce que vous voulez dire.
Voilà, c'est ça, pas celle au-dessus de Sahara.
Il faudrait que ce soit vraiment...
Mais ça y est, c'est en marche, chef Anto.
Non, je pense que ça arrive. Il faut qu'on apprenne à tous à travailler ensemble aussi. Parce que c'est pas facile de faire une équipe. Ouais. Déjà, cuisiner un caractère. Alors, cuisiner
et des égos.
Et des égos.
Non, c'est important aussi de le préciser. Certains cuisiniers ont des égos.
C'est pour ça que je dis la transmission.
C'est pas propre à l'Afrique subsaharienne. Les cuisiniers se bouffent le nez tout le temps.
C'est encore pire. Mais la transmission, pour moi, culinaire, elle commence d'abord par la transmission de l'humilité. Hein, parce qu'il faut respecter les éléments.
Merci, chef.
Il faut respecter les éléments, les produits, et puis il faut donner, c'est un legs, c'est quelque chose de précieux. C'est une continuité de la vie, parce que quand on mange, on peut sauver des gens parce que les gens se nourrissent très très bien. Donc il y a quelque chose de très très important dans cette capacité de savoir se nourrir et de partage aussi. Donc il faudrait qu'on sache qu'il y a la transmission, elle est là. Il y a des nouvelles formes de transmission par l'Internet et les autres, mais celle qui est séculaire, il y a encore des vieilles personnes qui transmettent aussi, mais il faudrait que les jeunes, par exemple, aient la volonté de se dire que, je vais aller à la fac, comment est-ce que je vais faire? Parce qu'il faut quand même que chacun se sente responsable.
Se poser le problème.
Oui. On a beau avoir une licence en maths,
On parle des étudiants parce qu'ils sont nombreux à nous écouter, mais il faut dire aussi, Christian Abégan, que vous revenez d'une partie du continent, c'était il y a très peu de temps, dans le nord du Burkina Faso, eh ben, c'est pas tellement la question du patrimoine culinaire, c'est plutôt la question de la quantité. Hein. Est-ce que les enfants ont suffisamment à manger pour se développer suffisamment bien?
Ils n'ont pas suffisamment à manger pour se développer. Donc, il faudrait.
Vous êtes parti avec de l'humanitaire.
Il y a des programmes humanitaires qui sont faits. Et puis, moi, j'attire un peu l'attention à tous les Africains de pouvoir se dire, quand ils voient, il faut qu'ils soient sensibilisés par rapport à ce problème de malnutrition. On est zéro famine sur le continent. On a la possibilité d'y arriver. Et on peut vraiment le faire avec tous les produits qu'il y a.
On peut pas mourir de faim.
Et surtout pour les chefs et les cuisiniers. Donc, je pense que en expliquant comment on peut mieux ressortir la valeur des produits à certaines communautés qui ne connaissent même pas comment utiliser leurs produits, ça peut sauver des vies.
On est en ligne avec le chef Pépin Kounkel, qui est à Pantin, chef depuis plus de 20 ans au Pletz. Bonjour Pépin Kounkel.
Bonjour.
On parvient enfin à vous avoir. C'est quand même un comble. Hein. Vous êtes en région parisienne et c'est là que la ligne téléphonique est la plus mauvaise. C'est comme ça. Il nous reste vraiment très peu de temps, une minute, Pépin. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous préparez là, par exemple, ce vendredi? Je sais que le vendredi soir, c'est spécialité africaine, hein, au Plates.
Oh ben, ce vendredi, on va faire sauce épinard.
Sauce épinard.
Avec trois pièces, comme on dit chez nous, gentiment.
C'est-à-dire?
C'est bon, ça.
Ça sera à base de crevettes, de poissons fumés, et du poulet fumé. Ouais. Tout simplement.
Ouais, tout simplement. Enfin, tout simplement, tous les auditeurs ne sont pas de votre avis. Hein, parce que depuis le début de l'émission, ils posent des messages en disant « Mais c'est compliqué, la transmission du patrimoine culinaire africain. »
Non, c'est pas compliqué. Il faut être simplement patient.
Patient.
Il faut être patient. Il faut apprendre.
Ouais.
Parce qu'on ne met pas sur le feu un litre d'eau et espérer l'avoir à 100 degrés ou à 90 degrés au bout de 2 secondes.
Oui. Ah bah oui, on a même un étudiant qui nous a dit « Moi, je jette tout dans la casserole et ça marche. »
Donc, c'est une question de patience. Donc, comment est-ce que je peux vous expliquer ça ? Faut prendre les feuilles d'épinards fraîches, les ébouillanter, cuire à souhait, mais les garder bien verts, et après faire une base de sauce tomate dans laquelle on incorpora de la sardine fumée, moulue.
Ça, c'est subtil.
Ouais.
Voilà.
La sardine fumée, je n'en ai jamais mangé, moi, personnellement. Je n'ai pas eu cette chance.
Ça se trouve dans le commerce.
Ouais. D'accord.
Maintenant, cuire séparément les crevettes. Le poisson fumé, il n'y a rien à faire dessus. Et la volaille fumée, le poulet fumé, l'introduire dans la sauce tomate. Maintenant, passer le jus de crevettes dans la sauce tomate. Pour qu'il n'y ait pas trop d'impuretés dans la sauce.
Eh bien, ça va être dur de se quitter sur des mets aussi délicieux. Merci, Pépin Kunkel. Enfin, merci à vous tous aussi, qu'aussi modeste Afro-Cooking, Chef Anto, Lorna Bobois, Do Sacramento et Christian Abégan. Vous revenez pour la sortie de votre livre Patrimoine culinaire africain. Et bien sûr, merci à vous tous, les voisins et les voisines. On vous laisse, on va fermer la boutique, on va se régaler parce que les filles ont apporté des gâteaux et grand frère Abégan donnera son verdict. Ça va être une petite star entre nous.
La nouvelle édition du festival.